Chapitre 13. Une mystérieuse blessure. 25 juin. Non, je ne demanderai pas à M. Baptiste, le père Maccabée, dont je connais maintenant l'adresse, qui est Gabriel. Je ne lui demanderai ni cela ni autre chose. D'abord parce qu'il y a des chances pour qu'il n'en sache rien lui-même, et puis parce que je suis à peu près sûr qu'il ne répondra rien du tout. Il faut que cet homme soit dévoué corps et âme à Jacques Cotentin pour que celui-ci, qui ne veut même pas un aide, le fasse assister à ses travaux, où il ne lui rend que des services de manœuvre. La figure si banale, vous savez qu'il n'est même pas laid, de Jacques Cotentin, a pris subitement dans mon esprit des proportions immenses. J'ai voulu lire quelques-uns des articles qu'il publie de temps à autre dans la nouvelle revue d'anatomie et de physiologie humaine. C'est tout à fait remarquable. Il y a là une odeur, une audace de vue qui bouleverse toutes les vieilles théories. En d'autres temps, je ne doute point que toute l'antique école en eût frémi, mais maintenant, on se passionne pour l'inconnu. La guerre a passé par là, creusant un abîme entre le passé et l'avenir, ou le comblant à votre gré. J'ai sous les yeux un article sur la dégradation de l'énergie dans l'être vivant, ou à propos des théories si intéressantes de Bernard Brune, je relève ces phrases dont la dernière me fit sursauter. En une semblable thermodynamique, on pourrait rencontrer des corps qui se transformeraient dans un certain sens, alors que le thermodynamique classique annonce leur équilibre ou leur transformation en sens inverse. Un système pourrait, en une transformation isothermique, fournir un effet utile supérieur à sa perte d'énergie utilisable. Le mouvement perpétuel ne serait plus impossible. Monsieur Duhamel, à la fin de son ouvrage sur la viscosité, le frottement et les faux équilibres chimiques, n'a rien décrit de plus fort. Et nous nous trouvons en face de l'hypothèse d'Helmholtz réalisée, l'hypothèse d'une restauration possible de l'énergie utilisable dans les êtres vivants. C'est-à-dire la mort vaincue. Toujours le mouvement perpétuel. Ainsi, c'est la même pensée qui les anime, le vieil horloger et le jeune prosecteur. Le premier au point de vue mécanique, le second au point de vue physiologique. Ah, certes, oui, la vie des cerveaux doit être intense derrière ce mur le long duquel je me promène en attendant Christine, et qui sépare les deux drames étranges, j'en ai pas encore la clé. En attendant, j'ai celle de la petite porte qui donne sur le jardin des Coulterets dans lequel je me trouve en ce moment. Le marquis n'a fait aucune difficulté pour me donner cette clé, paraît-il, car je n'étais pas là quand elle la lui a demandée. Il me l'a remise à moi, le plus naturellement du monde. Ben, comme cela, vous viendrez quand vous voudrez, vous êtes chez vous. Ceci se passait hier. Je dois remettre la clé à Christine aujourd'hui. Mais il est 5 heures du soir, elle n'est pas encore arrivée. Depuis quelques jours, elle se fait plus rare, et j'imagine que Gabriel doit réclamer ses soins. La santé de ce cher mystérieux garçon doit être meilleure, si j'en crois les belles couleurs de Christine. L'intervention chirurgicale l'aura définitivement sauvé, et je ne désespère pas de le revoir se promener dans le petit enclos des Norbert, au bras de sa belle infirmière. Chose inouïe, me semble maintenant que je vais haïr Christine. Et savez-vous pourquoi ? Oh, mystère du cœur humain, comme dit l'autre. Parce qu'elle trompe pour ce bel âtre, Jacques Cotentin. Maintenant que j'ai pénétré un peu dans ce cerveau-là, oui, Christine ne m'apparaît plus comme une poupée haïssable, méprisable, odieuse. Si elle ne l'aime pas, elle n'avait qu'à ne rien lui promettre, ou si elle ne l'aime plus, elle n'a qu'à le lui dire. Mais tromper un homme pareil, attention, ah, la voilà. Quelle jeunesse! Comment Gabriel ne guérirait-il pas avec ce sourire à son chevet? Cette belle main tirerait un mort du tombeau. À propos de mort et de tombeau, je n'ai toujours pas revu la marquise, et par conséquent, je n'ai pas eu à me préoccuper de prétextes plausibles pour ne point lui rendre toutes ces vieilles petites histoires de broucolaque que j'ai continué à feuilleter du reste et qui ont fini par me rebuter par leur stupidité. Christine l'aurait vue, elle? Où? Quand? Comment? Je n'en sais rien. Elle m'a dit que la marquise était redevenue languissante et que Sahib Khan la voyait presque tous les jours. Vous êtes bien en retard, fis-je à Christine en la regardant bien dans les yeux. Mais pourquoi me regardez-vous toujours ainsi? Me répondit-elle en accentuant son sourire. On dirait que vous avez toujours quelque chose à me reprocher. Et, oh non, je n'ai pas autre chose à vous reprocher que votre absence. N'est-ce rien que cela? Monsieur Galant, laisse-t-elle tomber en me regardant d'un air un peu narquois, par-dessus son épaule et tout en se dirigeant vers la bibliothèque. J'avais rougi jusqu'à la racine des cheveux. Voilà où j'en suis, moi, Bénédicte Masson, à de pareilles fadeurs. Penses-tu que cela prenne, Adonis? Quand nous fûmes dans la bibliothèque et que je lui eus donné la clé du jardin, elle me dit: Nous sommes maintenant tout à fait chez nous ici. Nous arrivons par le jardin et nous partons quand nous voulons. Nous n'avons pas affaire aux nobles vieillards costumés en Suisse. Nous n'avons plus à traverser tout l'hôtel sous les regards inquisiteurs de Sangor et parmi les bondissements de Ouistiti de Sing Sing. Parlez pour vous, fis-je. Moi, je n'ai pas de clé. Bon, j'aurais fait faire une demain pour vous. C'est entendu avec le marquis. Il tient à ce que nous soyons chez nous, à ce que nous ne soyons dérangés par personne. Ah oui? Ben, il tient si bien à cela, fit-elle en se dirigeant vers la porte qui donnait de la bibliothèque sur le petit vestibule, que cette porte est fermée, condamnée. Il n'y a plus que lui qui puisse pénétrer ici. Vraiment? Fis-je un peu étonné. On a bien des précautions. Mais il ne veut pas que la marquise vienne vous ennuyer. Oh, j'ai compris. J'aurais dû me réjouir de cet isolement dans lequel on nous laissait désormais, Christine et moi. Cependant, les circonstances assez obscures dans lesquelles l'événement se produisait et la pensée de cet autre isolé qui agonisait là-haut, épuisé par une folle imagination, me causèrent une sorte de malaise que je n'aurais su définir, mais que l'on éprouve généralement à la veille de quelque malheur dont on a de vagues pressentiments. De fait, un bien singulier et même tragique incident vint quelques minutes plus tard nous bouleverser. Christine et moi, à un point que je ne saurais dire. Nous avions commencé de travailler, une fenêtre ouverte sur le jardin, quand tout à coup nous fûmes surpris par un grand cri de douleur qui emplit tout l'hôtel. Christine et moi, nous nous étions dressés, aussi pâles l'un que l'autre. Nous avions reconnu la voix de la marquise. Et puis, ce furent des gémissements, des appels, les cris gutturaux de Sangor, le miaulement de Sing Sing, et par-dessus tout, les ordres brefs répétés, rageurs du marquis. « Courez, mais courez donc !» Enfin, dans le vestibule, dans l'escalier, dans tout l'hôtel, un tumulte de galopades et de meubles bousculés, renversés. Je me précipitais sur la porte qui résiste. Christine m'appela, non, par le jardin. Et nous nous jetâmes dans le jardin qui communiquait par une petite allée avec la cour d'honneur dans laquelle nous arrivâmes haletant. Sur le seuil de la voûte sombre, dont la porte était fermée, se tenait le noble vieillard qui paraissait fort ému et restait là, planté sur ses pieds, comme s'il eût été incapable de faire un mouvement. Aussitôt qu'il nous aperçut, il nous cria « Ah, ne vous mêlez pas de ça, ne vous mêlez pas de ça, c'est encore madame la marquise qui a une de ces crises !» Mais nous passâmes outre et, gravissant quatre à quatre le perron, nous entrâmes dans l'hôtel. Tout le bruit était maintenant au premier étage. Dirigé par le tumulte, par un grand bruit de portes brisées, défoncées, nous fûmes bientôt dans un corridor qui donnait sur les appartements de la marquise. Une porte gisait là, crevée comme par une catapulte. La chambre de la marquise, la malheureuse gémissait, se débattait entre les mains du marquis. Elle avait une toilette de demi-gala en lambeaux. Ses éternelles fourrures gisaient sur le parquet à ses pieds comme un tapis de neige, et elle était plus blanche que ses fourrures, aussi blanche que la neige. Sing Sing, dont les yeux de jade brûlaient d'un éclat insupportable, aidait le marquis à la maintenir. Dès que la malheureuse nous aperçut, elle jeta un grand cri où elle mettait je ne sais quel espoir. « Cette fois, c'est au bras !» me cria-t-elle. « Tenez !» Et elle leva son bras et nous vîmes non loin de l'épaule une petite blessure qui laissait couler abondamment un sang vermeil. « Ah, vous étiez ici ?» fit le marquis. Paroles qui me frappèrent, il ne nous croyait donc pas dans l'hôtel. « Ah, ben, tant mieux, vous allez m'aider à la calmer. Oh, ce n'est rien du tout, moins que rien. Elle s'est fait une petite blessure, je parie qu'elle s'est piquée au rosier. Et voilà, dans quel état nous la trouvons ?» Pendant qu'il parlait ainsi, la marquise ne cessait de répéter dans une espèce de hoquet. Oh, ne me quittez pas, surtout ne me quittez pas !» Là-dessus, Sangor accourut. Il parut aussi surpris que son maître de nous trouver là. Il avait à la main un flacon sur l'étiquette duquel je lus « Citrate de soude ». Le marquis, aussitôt qu'il vit le flacon, cria à Sangor « Imbécile, c'est pas ce flacon-là! Je t'ai demandé le chlorure de calcium !» Sangor s'inclina, s'en alla et revint presque aussitôt avec le chlorure de calcium demandé. Le sang qui coulait de la petite plaie s'arrêta bientôt sous l'action du chlorure. Le marquis prodiguait ses soins à sa femme avec une grande douceur et des paroles d'encouragement, tandis qu'elle se pâmait. Je regardais la blessure, elle n'était pas plus grande qu'une grosse piqûre d'abeille. Sur ces entrefaites, le docteur hindou se présenta. Le marquis lui dit « Oh, elle s'est blessée au bras, et naturellement, une nouvelle crise !» Sur quoi Sahib Khan nous pria de le laisser seul avec sa malade. Celle-ci ouvrit les yeux et nous regarda d'un air tellement suppliant que j'en eus le cœur malade. Cependant, sous le regard de Saïb Khan et aussi sous celui du marquis, elle n'eut pas la force de prononcer une parole. Ses lèvres tremblantes ne laissèrent passer qu'un faible gémissement. Il fallut la quitter. Le marquis nous faisait déjà signe. Nous sortîmes de la chambre. Sangor et Sing Sing marchaient derrière nous. Le marquis nous montra la porte brisée. « Vous voyez, nous expliqua-t-il, j'ai dû enfoncer la porte. Nous ne pouvons la laisser seule pendant ces crises. Elle se tuerait, elle se jetterait par la fenêtre, se ferait éclater le front sur les murs. Mais comment cela est-il arrivé ? Demanda Christine. Quant à moi, je ne demandais rien. J'étais affreusement troublé et j'osais à peine regarder le marquis, tant j'avais peur qu'il pût lire dans ma pensée. Dans ma très hésitante mais effroyablement inquiète pensée, il nous conduisit dans un petit salon qui était réservé à la marquise au rez-de-chaussée et dont la fenêtre était encore ouverte sur le jardin. Contre cette fenêtre grimpait un rosier. Elle respirait l'air du soir à cette fenêtre, nous expliqua-t-il. Moi, je ne l'ai point vue, mais Sing Sing, qui sortait du garage, l'aperçut au moment où elle jetait son cri de la crise. Et aussitôt, dans une clameur désespérée que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps, elle courait au premier étage, s'enfermait dans sa chambre. Moi, j'étais dans mon bureau quand tout ce tumulte éclata. Je n'avais pas besoin d'explication. Je savais de quoi il était encore question. Mais nous courions déjà tous derrière elle. Il fallut forcer sa porte. Moi, vous en savez maintenant autant que moi, ajouta-t-il en se tournant de mon côté, puisque personne n'ignore plus rien de mon malheur. Christine et moi regagnâmes notre bibliothèque, elle très attristée, moi de plus en plus agitée. « Mais que vous semble de tout ceci ? » me demanda-t-elle. Je lui dis oh, « Christine, quand nous sommes entrés dans la chambre, avez-vous remarqué la figure du marquis ?»« Oh non, je ne regardais que la marquise. » Eh bien moi, j'ai regardé le marquis. Il n'était pas beau à voir, vous savez. Ses yeux sanguinolents paraissaient prêts à jaillir de ses orbites comme deux billes de rubis. Sa bouche s'ouvrait sur une denture ardente, féroce, et toute sa figure ressemblait à un de ces masques japonais fabriqués pour terrifier l'ennemi. Je n'ai jamais rien vu de comparable à cette vision, si ce n'est l'air férocement joyeux du buste du marquis de Gonzague, que l'on cache soigneusement à Mantoue, au rez-de-chaussée du musée Patriot, dans une petite salle de débarras recevant le jour par la place Dante. Oh, ce marquis-là avait cet air, paraît-il, la veille de Formeau, le jour où il paya 10 ducats la première tête française coupée par ses stradios, et il baisa sur la bouche l'homme qui la lui apportait. Ce n'était pas un vampire, mais c'était tout de même un buveur de sang à sa manière. « Précisez votre pensée, » me fit Christine d'une voix sourde. « Croyez-vous que nous ayons réellement surpris notre marquis à nous la veille de Formeau ? » Ce serait tellement formidable que, justement, je n'ose préciser ma pensée. « Oh, il n'y avait peut-être là qu'une apparence, » m'empressai-je d'ajouter. « En tout cas, » murmura-t-elle, « si la veille de Formeau, Gonzague croyait se repaître de notre sang, son attente a été bien déçue le lendemain. Oui, quelqu'un est venu qui a troublé la fête. » Mais mon impression également, acquiesça-t-elle, est que nous avons dérangé tous ces gens-là. Mais en supposant les choses au naturel, il ne faut pas nous étonner que le marquis ait été désagréablement surpris par notre arrivée. Et si c'était vrai, fis-je. Quoi, si c'était vrai, quoi, si c'était vrai, répéta-t-elle. Oui, laissons toutes les autres histoires de côté. Il n'est pas besoin d'avoir vécu 200 ans pour avoir des instincts de bête fauve. Alors vous croyez, vous pouvez croire. Écoutez, Christine, vous rappelez-vous que Sangor, lorsqu'il est arrivé la première fois dans la chambre, apportait un flacon. Oui, un flacon contenant du citrate de soude, il me semble. C'est bien cela. Et le marquis lui a dit de le reporter, de revenir avec du chlorure de calcium. Parfait. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le chlorure de calcium, Christine, pouvez-vous me le dire? Eh bien, il a arrêté le sang. C'est cela même, mais savez-vous, Christine, ce que l'on fait avec le citrate de soude? Non. Eh bien, avec le citrate de soude, on le fait couler. Elle me regarda comme si je devenais fou à mon tour. On le fait couler, répéta-t-elle. Oui, en ce sens qu'on le laisse couler en empêchant de se former le caillot de sang qui fermerait la blessure. Frotter la blessure ou la piqûre avec du citrate de soude et la veine continuera à se vider de son sang comme l'eau coule d'un robinet. Enfin, ce n'est pas tout. Une bouche qui aspirerait ce sang et qui serait frottée de citrate de soude n'aurait pas à redouter la coagulation avec laquelle il faut toujours compter. Mais c'est effrayant ce que vous me dites là. Où avez-vous appris tout cela? Mais dans les livres de la médecine la plus sommaire, vous n'avez donc pas chez vous le Labos illustré? Quand on est relieur, Christine, et qu'on ne s'intéresse pas seulement à la reliure, on finit par apprendre bien les petites choses. Elle me regardait toujours et je vis bien que maintenant elle était au moins aussi agitée que moi. Elle me répéta encore, mais c'est effrayant. La science à l'usage du vampirisme. Oh, de nos jours, fis-je en matière de conclusion, le vampirisme, si vampirisme il y a, ne peut être que scientifique. Nous nous surprîmes à regarder les quatre portraits des quatre Couleterets qui, là-haut sur le mur, nous souriaient d'une façon si énigmatique et si troublante, très troublante, dans le jour qui tombait. Et ne laissant au contour des choses qu'une ligne indécise, une sorte d'effacement de pastel. C'est vrai qu'ils se ressemblent tout à fait étrangement, très étrangement, dit-elle. Et si c'est le même, repris-je en essayant de mettre dans le ton dont je disais cela un peu d'ironie et de désinvolture. Il a eu le temps de perfectionner sa méthode. Mais nous cessâmes bientôt de plaisanter, car il y avait encore des gémissements là-haut. Et comme ces gémissements se prolongeaient, nous ne pûmes nous empêcher de frissonner. Tout de même, fis-je, il serait bon de savoir comment cette blessure est arrivée. Après tout, le marquis peut nous raconter ce qu'il veut. Chapitre 14. Veillée. Il était tard maintenant, l'heure du dîner était passée depuis longtemps. nous ne décidions point à quitter ces lieux habités par une si mystérieuse douleur. On devait nous croire partis. Notre destin n'était point de nous dissimuler, cela eût été indigne de nous, mais en de telles circonstances, on pouvait peut-être avoir besoin de notre secours. En tout cas, c'est ce que nous pouvions répondre à qui s'étonnerait de nous trouver encore là. Dans notre cabinet de travail, nous avions allumé la petite lampe électrique portative dont la lueur dessinait un carré clair dans la nuit du jardin. Un grand silence s'était fait soudain dans l'hôtel, silence qui nous pesait peut-être encore plus que le gémissement lugubre et monotone qui nous tenait dans une angoisse si aiguë tout à l'heure. Une demi-heure se passa ainsi. Nous travaillions vaguement, je ne sais quoi, livrés, Christine et moi, à des pensées que nous n'osions sans doute pas nous communiquer. Enfin, je lui demandais, « Et vous, Christine, le marquis, vous laisse-t-il tranquille maintenant ?» Elle fut surprise par ce « et vous ». Comment « et moi » Mais pourquoi « et moi » fit-elle assez émue. Croyez-vous qu'il y ait un rapprochement quelconque à faire entre les imaginations de là-haut et ce qui s'est passé ici? Enfin, il n'a pas renouvelé sa tentative. Elle sembla hésiter une seconde et puis « Non, non, je me suis arrangé pour cela. » Au fait, je dois constater que le marquis s'est toujours montré devant moi d'une correction parfaite à votre égard. On dirait qu'il n'ose pas vous regarder, même quand il vous parle. Sans doute est-il un peu honteux, expliqua-t-elle avec simplicité, de s'être laissé aller à ce que nous pouvons appeler la violence de son tempérament. C'est vrai que dans ces moments-là, il n'était pas beau à voir. On aurait su dire s'il voulait m'embrasser ou me mordre. « Ou vous mordre ?» répétai-je en la regardant. « Oh, mais attention » fit-elle en me souriant. « C'est une façon de parler. Je crois pas aux vampires, moi. Mais tout de même, il m'a fait peur. Mais c'est extraordinaire que vous soyez restée ici, Christine. » Mais je vous ai déjà expliqué pourquoi, Monsieur Bénédicte Masson. » Elle me jeta cette réplique comme si je l'avais outragée. Ce fut elle qui rompit le silence pénible et qui avait suivi. Et dites-moi, mon ami, c'est vrai que vous avez une charmante maison de campagne ? Je m'attendais si peu à cette question que j'en fus bouleversé. Mais pourquoi me demandez-vous cela ? Elle me considéra avec un étonnement profond. Mais qu'est-ce qui vous trouble ainsi ? Ma question n'a rien que de très naturel. Non, mais pourquoi me parlez-vous de ma maison de campagne ? Mon Dieu, si j'avais su, vous voilà tout pâle. C'est le marquis qui m'a dit « Monsieur Bénédicte Masson a une charmante maison de campagne. Je m'étonne qu'il ne vous ait pas encore invité. » « Comment sait-il que j'ai une charmante maison de campagne ?»« Christine, Christine, ma maison de campagne n'est pas charmante. » C'est la plus triste, la plus mélancolique demeure que l'on puisse rencontrer entre la lisière d'un bois et un étang noir limoneux aux eaux de plomb. Christine, je ne vous y inviterai jamais, et n'y venez jamais. Elle était de plus en plus stupéfaite. Mais quel drôle de garçon vous faites ! Finit-elle par dire, si je m'attendais à cette Véhémence? Bien, bien, mon ami, je n'insiste pas. Le marquis ne vous a pas dit comment il savait? Mais si, il a eu un moment l'intention d'acheter d'immenses terrains du côté de Corbières-les-Eaux. C'est bien par là, n'est-ce pas? Oui, moi, je suis sur l'étang, tout au bord de l'étang noir. Eh bien, le marquis, qui a visité le pays et qui a dû se renseigner sur les propriétaires des terrains qu'il voulait acheter pour les réunir en une seule propriété, le marquis trouva votre villa charmante, voilà tout. J'étais tellement agité que j'allais à la fenêtre que j'ouvris. J'avais besoin de respirer. J'essayais de reprendre mon calme. Je m'en voulais mortellement de n'avoir pas su me contenir. À ce moment, dans le carré de lumière qui s'allongeait devant moi sur la pelouse, une forme blanche glissa, légère et silencieuse comme un fantôme. Je n'eus que le temps de me précipiter à la porte qui était restée ouverte sur le jardin pour recevoir dans les bras cette pauvre chose agonisante et qui déjà ne pesait pas plus qu'une ombre. Son souffle expirait sur ses lèvres exsangues. L'ovale de son visage s'était allongé en une ligne plus idéale encore. La mort semblait déjà fixer cette fragile image pour l'éternité, et la lueur qui errait au fond de ses orbites creuses comme deux abîmes n'appartenait plus au feu de ce monde. C'est en regardant des choses que nous ne pouvions pas voir, nous autres qui n'étions point comme elle sur la frontière du néant, qu'elle nous dit à tous deux, car Christine elle aussi s'était précipitée, « Eh bien, êtes-vous convaincue cette fois ?» Ils ne m'ont laissé que l'âme. Nous la déposâmes dans un fauteuil avec d'infinies précautions. Sa tête renversée sur le dossier était belle comme un marbre sur une tombe. Elle semblait considérer une dernière fois, et cette fois sans épouvante, car elle espérait lui échapper en franchissant les portes de la mort, le monstre en quatre images qui, du haut du mur, lui adressait sans se lasser son redoutable sourire. « Vous avez vu aujourd'hui, » fit-elle avec effort, « sa cinquième figure au moment où il va boire ma vie. Dites-moi s'il ne vous a pas épouvanté. Et maintenant il est parti. Il est parti avec tout mon sang. Et je vais mourir, car je n'ai plus peur de la mort. Oui, je me suis entendu avec Sangor, qui fait tout ce que l'on veut pourvu que ce ne soit pas défendu par sa religion. Quand je serai morte, il viendra dans ma tombe me couper la tête, et ainsi il n'y aura pas de danger que je revienne comme le monstre boire le sang des vivants. Les vivants peuvent être tranquilles, bien tranquilles. C'est un fait, c'est la seule manière qu'il a de me sauver de la vie et de la mort. Oh, je suis bien heureuse. Je suis sûre de Sangor, il me coupera la tête comme c'est ordonné dans le livre contre la résurrection. Monsieur Bénédicte Masson, vous avez lu mes livres. Alors vous savez bien qu'il faudra qu'on me coupe la tête. Je suis sûr de Sangor, je lui ai donné un collier de perles magnifiques. » Elle prononçait ces bouts de phrases comme si elle allait mourir après chaque mot. Et moi, j'aurais bien voulu lui poser une question pendant qu'il en était temps encore. Je profitais d'un moment où elle se tut, la tête renversée, les paupières lourdes, la gorge tendue, comme comme si elle s'offrait déjà au couteau de Sangor. Je dis, le marquis nous a conté que vous preniez l'air à la fenêtre du boudoir et que vous veniez de vous piquer le bras aux épines du rosier qui monte contre le mur et que c'est alors que vous avez poussé ce grand cri. Les paupières se relevèrent pour laisser passer une petite flamme qui presque aussitôt s'éteignit entre les cils rapprochés. Oh, je ne me suis point piqué au rosier. On ne crie point à la mort quand on se pique à un rosier. Mais j'ai crié quand il m'a mordu. Il était avec vous dans le boudoir? Mais non. Alors, il était dans le jardin? Mais non. Je ne sais pas où il était. Comment? Il n'était pas avec vous et il vous a mordu. Certes, il mord comme il veut, quand il veut. C'est en vain que je m'entoure de fourrure. Mais enfin, il ne mord pas à distance. Si. Oh, il n'y avait plus rien à dire, l'affaire était jugée. Nous étions là, tous les trois, accablés sous des idées différentes, quand Sangor parut. Il emporta dans ses bras puissants la malheureuse, dont la tête roula sur son épaule, sa tête que je voyais déjà détachée du tronc, dans un rêve d'horreur et de folie. Du reste, tout ne me paraît plus que sous des affreuses couleurs. Et il n'est pas jusqu'au regard de Christine que je le trouve un peu trouble quand, resté seul, je lui demande encore « Eh bien, que dites-vous de tout cela ?» Chose singulière, c'est la première fois que je ne lui entends pas dire, en parlant de la marquise, « Elle est folle !» Chapitre 15. La catastrophe. 30 juin. C'est fini, tout est fini, et c'est bien de ma faute. Comme on dit dans les romans populaires, j'en pleurerai longtemps des larmes de sang. J'ai perdu Christine, et me voilà exilé à nouveau dans ma sinistre petite maison de campagne de Corbillière, auprès de l'étang aux eaux de plomb. Corbillière, Corbillard, je passe mes journées à mener le deuil de mes dernières illusions et de mon fol amour. Oh, cette dernière phrase insipide me soulève le cœur. Illusion, fol amour, est-ce avec cette eau de rose que je vais pouvoir écrire ce qui est arrivé? J'étais devenu comme une bête ensorcelée autour de Christine. Il faut vous dire que depuis 8 jours, nous étions seuls dans l'hôtel. Le marquis avait emporté la marquise expirante à son vieux château de Coulteret, sans doute pour qu'elle fût plus près de son tombeau qu'il y attendait. Toute la domesticité avait suivi, seule avec Christine. Et voici ce qui est arrivé. C'était un soir, après dîner, dans le jardin où nous revenions quelquefois, Christine et moi, sans nous être donné rendez-vous. Depuis les dernières scènes auxquelles nous avions assisté, quelque chose d'assez mystérieux semblait nous avoir rapprochés davantage, du moins je me l'imaginais, car jamais encore je n'avais vu Christine aussi confiante, ni aussi simple avec moi, ni aussi près de moi. C'était un soir d'une douceur ineffable après la grosse chaleur du jour. Je n'avais jamais été aussi heureux. Nous étions assis l'un près de l'autre, un même attendrissement, qu'il était peut-être, hélas, que de l'apaisement chez Christine, nous tenait silencieux. Mes pensées tournaient à la romance. Autour de nous, les murailles grises se fondaient dans le repos. Un chêne solitaire vacillait d'ivresse en se penchant au-dessus de l'abîme obscur de nos cœurs. Ma main se posa sur sa main, geste inconscient s'il en fut jamais, et sa main tiède resta dans la mienne. Évidemment, quand je pense encore à cette minute précieuse, c'est vers toi que je me retourne, nuit, ténèbres propices, voile sacré derrière lequel s'oublia ma laideur. De ce que Christine n'avait pas retiré sa main, je concluais volontiers que mon contact ne lui déplaisait point, et cela pouvait déjà passer pour la plus grande victoire de ma vie. Quand elle me demanda sur le ton de la plus sournoise confidence, est-elle vraiment folle? Qui donc, interrogeai-je, assez dépité de constater que dans le moment même, sa pensée était si loin de moi que je ne la rejoignais pas. Mais la marquise? Oh, je vous avouerai, fis-je avec un peu d'humeur, que je ne pensais plus à cette malheureuse. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Parce que quoi? N'étions-nous pas d'accord là-dessus? Pouvons-nous autre chose pour elle que de la plaindre? Oui, la plaindre, répéta-t-elle avec sa voix de rêve. Elle n'a pas su résister, elle, résister à l'ambiance. Que voulez-vous dire? Expliquez-vous, Christine. Mon cher Bénédicte, si je vous dis cette chose à laquelle j'étais cependant résolu à n'attacher aucune importance, c'est à cause d'une certaine confidence dont je ne laisse pas d'être assez troublé, je l'avoue. Vous m'intriguez, Christine. Pendant ce temps, ma main était toujours dans la sienne et cela m'inspirait des pensées telles que j'avais le plus grand mal à la suivre. Eh bien, moi aussi, j'ai été piqué. Seigneur Dieu, expliquez-vous, Christine, expliquez-vous. Oui, j'ai été piqué par le rosier, oh, il y a quelque temps de cela, et au bras comme elle, et au même endroit qu'elle, et avant elle. J'essayais de voir son visage, mais elle le tenait penché et détourné de moi. Oh, en vérité, voilà une bien grande aventure, déclarai-je assez froidement. Elle s'y est penchée elle-même et vous avez été piqué par le même rosier. C'est là quelque chose de tout à fait extraordinaire. Non, releva-t-elle doucement, toujours de sa lointaine voix. Non, ce n'est pas tout à fait extraordinaire. Mais figurez-vous qu'à la suite de cette piqûre, je me suis senti comme engourdi, sinon empoisonné, enfin dans un état de faiblesse cérébrale tel que, rentré dans la bibliothèque, je me suis étendu sur le divan tout juste pour fermer les paupières et pour avoir le plus douloureux des rêves. Mais quel rêve ! J'ai vu le marquis. Avec cette figure atroce que vous lui avez découverte l'autre soir, quand vous avez pénétré chez la marquise après l'accident, il s'est approché de moi, et malgré tous mes efforts pour l'éloigner, il s'est emparé de mon bras, et collant ses lèvres à ma blessure, il aspirait tout mon sang, toute ma vie. Vous avez eu vraiment ce rêve-là? Oui, vraiment. La marquise, vous avez déjà raconté toutes ces histoires de broucolaque. Oui. Et vous vous étiez endormi sur le divan, au-dessous des Quatre portraits, les quatre coulteraient. Oui, c'est cela même. Alors, concluez vous-même, Christine. J'ai conclu, oh, j'ai conclu, oh, j'ai conclu. Mais alors, je n'avais pas vu la marquise piquer comme moi au bras, en se penchant à la même fenêtre. Et je ne l'avais pas vu revenir comme un fantôme nous crier. Eh bien, ils vous ont convaincu, cette fois, ils ne m'ont laissé que l'âme. Ah, oh, ça, mais Christine. Évidemment, ah, ça, mais c'est bien ce que je me dis. Enfin, comment cela a-t-il fini pour vous? Repris-je assez impatienté du ton plaintif et un peu inquiétant qu'elle prenait pour me raconter son rêve. Eh bien, cela a fini quand je me suis réveillé. Oui. Le marquis n'était pas là? Non, la première chose que mes yeux rencontrèrent fut l'image des quatre Coulterets là-haut dans leur cadre. Et comment vous sentiez-vous? Oh, brisé! Et qu'avez-vous fait? Je suis allé trouver le marquis pour lui dire que l'air de sa maison ne me valait rien du tout, et que, me sentant un peu souffrante, je serais peut-être quelque temps sans revenir. Lui avez-vous raconté votre rêve? Oui. Et qu'a-t-il dit? Que sa femme nous rendrait tous fous ici. Et il me conseilla d'aller me reposer une semaine ou deux à la campagne. C'est même la première fois qu'il me parla de Corbières-les-Eaux. Je tressaillis, mais j'en s'aperçus même pas. Et vous n'êtes pas allé à la campagne? Non. Je ne pouvais alors quitter ni papa, ni Jacques. Je pensais ni Gabriel. Il y eut un silence, puis. Vous me prenez sans doute pour une sotte, et j'ai peut-être eu tort de vous montrer que cette maison, avec ses singuliers habitants et leurs airs de mystère, a fait entrer en moi un étrange sentiment d'inquiétude depuis l'accident de l'autre jour. Mais cependant, vous n'y êtes jamais venu plus souvent, murmurai-je en me rapprochant d'elle. Nos mains étaient toujours unies. Ah, Christine, Christine, ma pauvre chère âme, chaque maison comme chaque cœur a son mystère. Ce fut à son tour de tressaillir. Je vous jure, Christine, que votre piqûre de rosier dont a saigné votre bras n'est rien à côté de certaines autres affreuses blessures par lesquelles s'épanche, se répand, coule jusqu'à la dernière goutte la vie d'un cœur. Pourquoi donner aux vampires la figure des morts? Le plus grand broucolague du monde est un tout petit enfant aux joues roses, avec un carquois et des flèches, et il s'appelle l'amour. Vous avez raison, mon ami, fit Christine dans un souffle, en baissant tout à fait la tête. Quel silence suivit ces dernières paroles. J'osai murmurer enfin à l'oreille de celle qui se taisait près de moi. J'osai murmurer le commencement d'une complainte de ma fabrication qu'elle avait dû goûter particulièrement, puisqu'elle l'avait apprise par cœur. Ô âme douce, comment es-tu venue ici? Étranges sont tes paupières, étrange ton vêtement et étrange la longueur glorieuse de tes tresses. Elle ne me laissa pas continuer, mais sa main serra nerveusement la mienne et cette pression précipita le cours de ma vie jusqu'à la sensation de l'étouffement. Remettez-vous, mon cher Bénédicte, me fit-elle, en se levant et en me rendant ma main. Vous avez tort de dire toutes ces belles choses pour moi. Mon vêtement n'est pas étrange. Vous n'avez jamais vu se dérouler ma chevelure, car je ne suis ni excentrique ni coquette, et si je viens ici plus souvent que de coutume, c'est que le marquis n'y est plus. Là-dessus, elle rentra dans la bibliothèque, et moi, je retombai, assommé, sur mon banc. Ce n'est que quelques instants plus tard que je me relevais vacillant et prêt aux injures, mais je retrouvai Christine dans notre petit atelier. Elle pleurait. Oubliant déjà ma fureur, je m'apprêtais à prononcer quelques bonnes paroles où, naturellement, je n'aurais point manqué de me donner tous les torts. Quand je m'aperçus que les larmes de Christine coulaient sur l'image burinée à laquelle elle avait travaillé avec une assiduité qui déjà m'avait fait en souffrir, du beau Gabriel. Aussitôt, je sentis en moi un fleuve d'amertume d'où je laissais tomber quelques gouttes. Certes, fis-je, si j'étais aussi beau que celui-là. J'avais cru l'embarrasser. Quelle erreur ! Elle levait sur moi des yeux brillants d'une indéniable sympathie. Elle me dit sans gêne : Oh oui, si vous aviez été aussi beau que lui. C'était un pouf et de rire. Si je n'avais été aussi amoureux et si j'avais pu oublier une seconde que j'étais la première victime de cette situation ridicule. Le plus inouï qui commença de m'ouvrir d'étranges horizons fut que Christine tenta immédiatement de prendre cette place de première victime pour elle. « Oh, mon ami, mon cher grand ami, gémit-elle, oh, je suis bien malheureuse. Eh bien, et moi, m'écriai-je, croyez-vous que je me promène dans les Champs-Élysées ? Vous êtes beaucoup moins à plaindre que moi, m'expliqua-t-elle, avec cette logique spontanée, candide et irréfutable que l'on trouve à peu près chez toutes les femmes. Oui, beaucoup moins à plaindre, puisque c'est par ma faute que vous êtes malheureux. S'il n'y avait que vous. Ah oui, fis-je de plus en plus abasourdi, il y a encore le prosecteur. Mais pourquoi ne l'épousez-vous pas ? J'éprouvais une joie funeste à me déchirer, à la déchirer elle aussi, autant qu'il était dans mes moyens de le faire, moyens que j'espérais bien pousser jusqu'au bout, maintenant que nous avions entrepris cette marche à l'abîme. Parce que je ne l'aime pas, m'avoua-t-elle avec un gros soupir, et en continuant de laisser couler ses libres larmes sur l'image que j'aborais. Ben, et comment, ne l'aimant pas, lui avez-vous promis le mariage ? Pourriez-vous m'expliquer cela, Christine ? Oh, fort honnêtement, répondit-elle. Jacques ne vit que pour moi depuis sa plus tendre enfance. Le peu que vous en connaissez maintenant vous permettra d'apprécier mes paroles sans sourire. Quand je vous aurai dit qu'il est en train de devenir l'un des premiers, peut-être le premier, savant de ce siècle. Eh bien, Jacques se moque de la gloire, de la fortune et de tout ce qui se rattache à l'humanité en général. Il ne vit que pour moi. Ce génie que l'on ne peut entendre 10 minutes sans être ébloui, il n'a qu'un but, me serrer dans ses bras et me faire la mère de ses enfants. Et vous auriez voulu que d'un mot je souffle sur cette flamme, que je fasse de la cendre de ce foyer où viendra peut-être se réchauffer l'humanité future. Non, non, je lui appartiens. Il le sait, c'est ce qui fait sa force. Si j'avais voulu, j'aurais été déjà cet homme-là. Mais il a son idée, lui aussi, son orgueil. Il veut m'apporter sa dot, quelque chose que l'on n'a point déposé encore dans une corbeille de mariage. La chaîne d'or avec laquelle les hommes, devenus créateurs de la vie, tiendront à leur tour la divinité vaincue. C'est un beau bijou, en effet, répliquai-je sans sourciller. Mais lent à forger, et puisque vous n'aimez pas le forgeron. Bénédicte maçon, quand je vous dis à vous seul au monde, que je ne l'aime pas, cela signifie que je ne l'aime pas autant qu'un cerveau comme celui-là mériterait d'être aimé. Vous abusez de mes sentiments pour vous, et vous êtes en train de trahir ma confiance. Mais les coups qu'elle me décochait ainsi de droite et de gauche, tout en ayant l'air de me caresser, avaient achevé de m'étourdir. Et c'est alors que, perdant toute direction du combat, je laissais tout haut parler la brute. « Vous avez des sentiments pour lui, vous avez des sentiments pour moi. En attendant, c'est celui-ci que vous embrassez. » D'abord, elle ne comprit pas, mais elle dut sentir passer sur elle quelque chose de redoutable, car elle leva sur moi une figure de noyée. Oh, la pauvre enfant faisait pitié sous le voile de ses pleurs. Mais il était trop tard pour la sauver du supplice que je lui imposais. Ma main désignait encore l'image de Gabriel, qui lui aussi pleurait les mêmes larmes qu'elle. Quand elle eut compris, toute sa douleur, qui s'épanchait librement devant moi comme devant un ami, se trouva glacée du cou. Elle se leva en frissonnant, et elle alla s'enfoncer dans la nuit de la bibliothèque où je n'osais tout d'abord la suivre. Combien de minutes s'écoulèrent ainsi, voilà ce que je ne saurais dire. Dans son isolement, j'étais sûr qu'elle ne pensait qu'à lui, et la preuve de cela, elle finit par me la donner. Elle m'appela près d'elle. Sa voix était loin d'être hostile. Était-elle naturelle? Faisait-elle un effort sur elle-même parce qu'elle avait quelque chose à me demander? Je n'essayais point de résoudre ce problème. Ses nerfs étaient à bout, à moi aussi. Elle n'avait qu'à me laisser dans mon coin. Elle aurait dû comprendre qu'il y a certaines heures lourdes, d'une volupté insupportable, pendant lesquelles il est dangereux d'appeler près de soi les poètes avec une voix de miel. Je m'assis à l'autre bout du divan par une dernière précaution qui touchait à la plus haute vertu et à cause de laquelle je réclame le bénéfice des circonstances atténuantes dans la scène fatale qui m'a privé pour toujours de Christine. « Mon ami, me dit-elle avec un soupir où palpitait tout son amour, pas pour moi certes, et toute sa peur, mon ami, seriez-vous jaloux d'une image ? Non, cessons de nous mentir, fis-je brusquement. Je vous adore et je vous hais à la façon du maudit qui est à l'autre pôle de Dieu et dont le tourment ne constreint cessera que le jour où le beau et le laid se rapprocheront pour s'anéantir. En ce qui vous concerne, nous n'en sommes pas là. Votre douce voix qui m'appelle me rend malade de fureur si elle est un piège. mais plus mou qu'Hercule aux pieds d'omphale, si elle vibre d'une véritable tendresse, comme parfois j'ai osé l'espérer, et comme je veux le croire ce soir. Ou vous allez me chasser avec des mots rudes, ou vous allez avoir pitié d'un damné. Oh, je m'entends, et rassurez-vous. Vous avez promis de juste noces à un homme que vous n'aimez pas, et vous lui apporterez un corps vierge, c'est sublime. Mais puisque vous avez des sentiments pour moi, parole naïve, populaire et charmante, qui a la douceur de la rose sur le gril où se tord le prince des Aztèques, vous allez cesser de me mentir. Christine, Christine, ce n'est pas un profil d'argent que je vous ai vu embrasser. Cette belle image a un nom. Elle s'appelle Gabrielle. Oh, l'effet fut foudroyant. L'ombre de Christine se dressa dans l'encadrement de la fenêtre. Et elle se pencha sur moi, si près que je sentis son souffle haletant sur mon front baigné de sueur. Comment savez-vous? Mais comment savez-vous? Alors je lui dis tout. Je ne voulus rien lui cacher de mon honteux espionnage. Je lui retraçai assez crûment, du reste, les scènes auxquelles j'avais assisté. Elle me donnait à peine le temps de respirer. Et après, me pressait-elle. Après, oh, je lui dis comment j'avais cru à la mort du mystérieux étranger, comment il m'était apparu convalescent, enfin, ce fut l'horreur de l'opération et de son dénouement à elle. Et son angoisse. J'espère, terminai-je sur le ton de la plus triste ironie, qu'il est maintenant hors de danger. Elle ne répondit point à ces dernières paroles. Elle était retombée tout près de moi, et ce fut elle qui, cette fois, posa sa main sur la mienne. Et combien était-elle brûlante toutes les deux! Ma bien-aimée paraissait affreusement accablée. Enfin, elle prononça avec effort. « Et qu'avez-vous pensé en voyant mon père ?»« Votre père, fis-je, a été violent, et j'ai bien cru que c'en était fait de Gabriel. Toutefois, cet acte sauvage avait une excuse. » Tandis que le fait pour une jeune fille qui a tous les dehors de la vertu de cacher le beau Gabriel dans son armoire. Assez, assez, murmura-t-elle. Et si vous ne voulez point que je vous haïsse, non seulement vous allez cesser cette raillerie infâme, mais vous allez me jurer d'oublier tout ce que vous avez vu, vous. Ne vous demandez même pas ce que Gabriel fait chez nous, ni le sens du drame auquel vous avez assisté. D'autres que vous ont entrevu notre hôte, notre femme de ménage, par exemple, et je sais qu'on en a parlé chez Mademoiselle Baresca. Aux dernières nouvelles, on dit que c'est un étranger proscrit et condamné par le parti qui l'aurait trahi. Ce sont des histoires. Mais nous n'avons de renseignements à fournir à personne, qu'à la police, ils nous en demandent. Mais je ne vous cache pas que nous avons un intérêt immense à ce que la police ne franchisse notre seuil que le plus tard possible. Si cela arrivait, à elle aussi, nous demanderions le secret jusqu'au jour, mon ami, qui n'est peut-être pas très lointain, où je pourrais tout vous dire. Puis-je compter sur vous, mon ami? Mais comment donc? Cet homme, après tout, n'est pas à plaindre, bien qu'il ait été fort malmené par votre père. Tout compte fait, je voudrais être à la place de votre séquestré, moi. Vous continuez à me faire souffrir, Bénédicte. D'un mot, je pourrais vous faire taire, mais ceci n'est point mon secret. Et j'ai juré à Jacques. Elle s'arrêta, et je ne sus jamais ce qu'elle avait bien pu jurer à Jacques. Finissons-en ce qui concerne Gabriel. Je puis vous jurer à vous, mon cher et tendre ami, je puis vous jurer que mon affection pour ce bel étranger n'a jamais dépassé les limites d'un amical abandon. Oui, ma tête a porté sur son épaule. Oui, mes lèvres se sont posées sur sa joue. Oui, j'ai embrassé sa beauté. Hélas, hélas, celui-là non plus, je ne peux plus l'aimer. Il n'a que sa beauté pour lui. C'est une tête vide, comprenez-vous? Les imbéciles sont bien heureux, répliquai-je dans un rire diabolique. Fichtre, Christine, s'il vous faut pour être heureuse, le profil de l'Apollon Pintien, la pensée d'un Jacques Cotentin. Et le cœur embrasé de Bénédicte Masson, achevait-elle à mi-voix. Tout cela dans un même homme, repartis-je sur un ton de plus en plus sauvage. Peste, ma chère, nous ne sommes prêts ni les uns ni les autres du paradis. Bénédicte, Bénédicte, calmez-vous. Vous ne m'avez jamais parlé ainsi, vous m'effrayez. J'envie l'homme à la tête vide, fis-je. Et là-dessus, j'éclatai à mon tour en sanglots, comme un enfant de 10 ans. Elle eut encore le tort, le grand tort, de se rapprocher davantage dans un mouvement qui n'était qui ne pouvait être que de pitié, et qui acheva d'exalter en moi un romantisme effréné, cette espèce de frénésie de la parole qui cache sous ses oripeaux de foire et son clinquant de parade la très humble et très simple douleur d'un pauvre être qui n'a jamais senti se poser sur ses lèvres les lèvres d'une femme. Elle me la baillait belle avec son tendre et chaste abandon sur l'épaule du bel être à la tête vide. On nous a appris, sur les bancs de l'école, l'histoire d'une femme reine par le rang, la beauté et l'intelligence, qui apportait son baiser au poète endormi, si laid fut-il. Et je servis à Christine, notre Alain Chartier, avec ce luxe de vocable derrière lequel je dissimule autant que possible ma terrible timidité. Pour les uns, je suis un grand poète, pour les autres un saltimbanque, pour moi, je suis un mendiant. Sous mes sanglots gonflés de rhétorique, une femme qui m'aimerait vraiment lirait tout de suite ces deux mots « embrasse-moi ». Misère de ma vie, je ne puis pas les prononcer. Mais Christine les a entendus tout de même. La voilà, la divine qui se penche sur moi, son souffle, son haleine embrasait mes artères, cependant que le cœur rouge de sa bouche s'entr'ouvrait sur la mienne. Allais-je mourir de joie, m'éteindre du cou consumé par la flamme sacrée? Mais pourquoi n'ai-je pas fermé les yeux? Alain Chartier dormait, lui. Oui, mais Marguerite avait les yeux grands ouverts sur cette sublime laideur qu'elle honorait d'un baiser royal. Et pourquoi as-tu fermé les yeux, toi, Christine? Est-ce parce que cette nuit est trop claire encore? Est-ce par pudeur? Je veux le savoir, Christine. Soulève donc tes paupières closes et embrasse ton poète. Eh bien, allons, du courage. Sois satisfait, Bénédicte. Elle a ouvert les yeux par ton ordre stupide. Ta Christine, et elle a eu un soupir de dégoût. La peau a fait ce qu'elle a pu, et toi, Tu t'es conduit comme un misérable. Si tu ne l'as pas étranglé, c'est tout juste. Elle a roulé sous les coups. Et tu t'es enfui jusqu'ici, jusqu'au bord du petit étang sinistre aux eaux de plomb. C'est la première fois que tu brutalises une femme. Tu n'as qu'une excuse, c'est que tu n'en as jamais aimé une autre comme celle-là.